Bienvenue sur Néo Travail, le podcast qui explore le futur du travail écoféministe. Nous donnons la parole à des femmes qui travaillent et entreprennent en prenant soin des autres et de la planète.
Nous sommes Hélène et Laetitia, deux exploratrices écoféministes. Bonne écoute!
D'après l'INSEE, les femmes représentent près de 49% des actifs. Ce sont autant de personnes concernées par le cycle menstruel. Alors que l'on travaille ou non, le cycle vient avec son lot d'humeurs variables, d'énergie changeante et de douleurs plus ou moins intenses. Et tout ça, ça se répète d'un cycle à un autre. C'est naturel, ok, mais en société et au travail, il faut gommer cette particularité. Il faut s'en accommoder, subir en silence et faire comme si chaque jour était le même. Le cycle menstruel et l'impact qu'il peut avoir sur les personnes menstruées ne sont pas du tout pris en compte dans l'organisation du travail et c'est un problème. Alors on s'est demandé comment on pouvait adapter le travail à son cycle et comment on peut en tirer profit. Comment est-ce qu'on peut mieux vivre son cycle et les différentes phases qui le composent? Et pourquoi c'est si important d'amener ce sujet en entreprise? C'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode avec Héloïse, fondatrice de Moonly Cat, que nous avons rencontrée lors de la toute première édition de l'Écofémina Festival qui s'est tenue à Lyon en octobre. Bonjour Héloïse, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Néo Travail pour parler aujourd'hui du cycle menstruel et de voir avec toi comment on peut l'adapter au travail. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on aimerait bien que tu puisses te présenter comme tu le souhaites et que tu nous expliques quel est ton métier ou ton activité professionnelle aujourd'hui.
Eh ben, bonjour et merci de m'accueillir aussi dans votre podcast, je suis honorée. Donc, je m'appelle Héloïse Bouillot et j'ai créé Moonly Cat. À la base, c'était pour révéler la puissance du féminin en entreprise, donc à la fois en leadership, management et organisation féminin, donc apprendre à s'organiser en fonction de son cycle menstruel pour en faire un atout et, plutôt qu'un tabou. Et finalement, au fur et à mesure des mois, quand je pitchais mon projet avec tout l'ensemble, tout ça, c'était plus la partie organisation féminin qui plaisait et le cycle menstruel qui plaisait. Donc du coup, j'ai au fur et à mesure dévié sur les règles au travail et sur l'environnement professionnel. Et donc voilà, maintenant on est ici. Et donc là, je suis donc à la fois dans l'accompagnement des femmes pour s'organiser en fonction de leur cycle menstruel. Et maintenant, je vais accompagner aussi des entreprises, que ce soit plus ergonomique et plus inclusif. Dans le sens, là je vais accompagner une entreprise sur la mise en place du congé menstruel et par exemple mettre des distributeurs de protection périodique ou avoir des infusions, puis du coup on sait que le café c'est très mauvais pour le cycle et du coup proposer des infusions à la salle de café, enfin tout plein de choses en fait pour accueillir au mieux les femmes au travail quoi.
Et du coup, comment toi, t'en es arrivée à Moonly Cat et à vouloir accompagner à la fois les femmes et les entreprises autour du sujet des règles et du cycle menstruel?
En 2019, j'ai lu le livre Lune Rouge de Miranda Gray. Et ça m'a fait découvrir et faire la paix avec mon cycle et comprendre au mieux comment ça fonctionnait. Et ça m'a un peu révolutionné la vie. Et après, quand dans mon ancien travail, j'étais promue... responsable du jour au lendemain, en fait, c'était énormément d'heures et tout ça, et donc ça m'a énormément aidé à tenir le rythme. Et quand j'en parlais avec mes autres collègues sur le REG, sur tout cet impact et tout ça, les gens ne connaissaient pas tous ces phases d'énergie, elles ne connaissaient pas leurs règles, enfin, elles savaient à peine, elles savent qu'elles ont leurs règles, mais pas plus que ça. Et du coup, j'étais devenue un peu la conseillère règles dans l'entreprise pour certaines, et je me suis dit, mais c'est un vrai sujet parce que ça a vraiment un impact au travail. Et on peut vraiment faire un atout et j'ai vraiment envie d'aider d'autres femmes à savoir ça et à démocratiser le sujet et lever le tableau autour des règles. Et après du coup j'ai quitté mon emploi et je me suis concentrée là depuis près d'un an dessus pour tout creuser. Et en fait oui certes il y a un problème d'énoncer le problème et du coup proposer des solutions qui sont à la fois bien pour les femmes et à la fois bien pour les entreprises et pas que ça soit du coup mal vu par les entreprises d'être dans cette... privilégier les règles des femmes et que ça passe pas un truc individualiste ou voilà.
On avait aussi envie que tu nous parles de quelque chose qu'on a trouvé hyper intéressant dans ton parcours, assez original parce que très peu connu a priori. C'est ton école de sorcière. Donc on aimerait bien en savoir un peu plus sur ce que c'est, ce que tu as appris, les rencontres que tu as faites aussi. Enfin voilà, si tu peux nous en dire un peu plus aussi, parce que ça fait partie de ton parcours et peut-être que ça a contribué en tout cas à Moonlicat aujourd'hui.
Bah, tout à fait. Du coup, c'était l'école des éveilleuses, l'école des mystères, les éveilleuses du féminin. Et ça a été fondé par Amala Klepp-Kremel et j'ai fait la première édition, du coup la première promotion. Donc là, on va être à la troisième promotion déjà, mais du coup, c'était la première. Et c'est une école en fait qui reprend c'est l'exploration des sept archétypes du féminin et à travers toutes les sagesses du féminin et toutes les médecines alternatives, on va dire, autour du féminin. Et c'est vraiment pour reprendre l'impuissancement, l'empouvoirment de la femme à travers tous ces rituels d'une meilleure connaissance de soi, travailler avec ses ombres, travailler sur toutes ses facettes, incarner chacun des archétypes pour avoir encore plus de potentiel autour de tout ça. Et plein de sagesse avec plein de filles, de femmes du milieu qui sont déjà revenues dans le milieu pour nous enseigner plein de sagesse autour de tout ça. Et j'ai fait cette formation en parallèle de mon ancien poste du coup en tant que responsable manager. Donc c'était un peu une école des sorcières avec une manager responsable à côté. Mais ça m'a énormément aidée et j'ai toujours dit que j'aurais pas été une aussi bonne manager si j'aurais pas fait cette école et vice versa. Parce que ça m'a vraiment permis de me connaître mieux moi et d'utiliser mes atouts féminins, mais dans le sens pas les atouts féminins, les énergies féminines, tout ça, juste comprendre et prendre conscience que la douceur ça peut faire beaucoup de choses, l'empathie, l'humanisme ça fait beaucoup de choses dans le management et j'avais rédigé un mémoire sur le management par les archétypes du féminin justement et puis du coup il y a des zones d'ombre pour il y a des zones d'ombre et de lumière pour chacun des défauts et des qualités pour chacun des archétypes et du coup explorer le pourquoi on allait dans ces zones d'ombre et tout ça et du coup et cette école du coup je dis que c'est une école de sorcières, mais on n'apprend pas à jeter des sorts et tout ça, enfin, même c'est des rituels et tout ça, très sacralisé. Pour moi, une sorcière, c'est une femme qui est connectée à son cycle menstruel, qui est connectée à la nature, aux autres, aux énergies, l'invisible, et une femme qui est surtout dans sa puissance féminine et qui est une féministe en fait. Et c'est pas une femme avec sa verrue au fond de la forêt ou qui va jeter des sorts et tout ça, enfin, mais c'est vraiment une femme qui est connectée à sa puissance féminine et à son leadership, à son incarnation, et qui suit tous les cycles et qui est écologiste et tout ça.
Donc en fait, cette formation, ça t'a conforté dans l'idée de vouloir développer Moonlicat, même si à la base, à ce moment-là, c'était pas encore Moonlicat.
C'était en fait avec cette école, après à la fin de l'école, quand on est à la dernier module, on doit faire des vœux, comme quoi. En fait, c'est une école d'éveilleuse. On est là pour éveiller le monde, justement, un nouveau paradigme et la nouvelle société. Et donc, toutes les femmes qui étaient, elles avaient toutes chacune leur médecine. Et du coup, à la fin, on devait choisir quelle était notre médecine et quelle était notre mission et faire notre profession de qu'est-ce qu'on voulait apporter au monde. Et du coup, moi, c'était réveiller la puissance des femmes. Et je me suis dit, mais parce que moi, j'ai un pied déjà dans l'entreprise et je voulais pas aller faire thérapeute dans un cabinet ou être dans ces trucs. Trop perché comme on pourrait voir et tout ça, et du coup encore plus éloigné de la société. Je me suis dit, si on veut vraiment faire changer les choses, c'est à l'intérieur de la société. Et donc je me suis dit, révéler la puissance des femmes en entreprise, et donc c'est pour ça accompagner autour de tout ça quoi. Et donc c'est pour ça qu'au début il y avait tout le leadership et le management, parce que du coup c'était d'après moi mes recherches sur les archétypes du féminin, c'était mes recherches sur aussi, elle a écrit un livre qui est excellent, qui est La voix de la magicienne, et qui en fait, moi j'ai recruté mes équipes avec justement cette sagesse là, et du coup il y a 4 types de profils de personnes, et chaque personne a ses je recrutais pas les gens avec leur CV ou leurs expériences professionnelles, parce que ça veut rien dire, c'était par leur passion et qu'est-ce qui les faisait vibrer, et justement après j'ai essayé de faire en sorte de leur donner ça au travail, quelque chose qui... Il y en a une qui adorait classer, structurer et tout ça, c'était mon assistante, donc du coup elle lui donnait tous les trucs à paperasse et tout, voilà. Et tout, elle était aussi très créative, donc tout ce qui était, elle m'aidait aussi à faire les merches quand j'étais responsable des achats. Donc du coup, elle m'aidait à faire toutes les merches et tout ça, toutes les planches tendances et tout ça. Il y en a un autre qui était plus dans l'action et tout ça, donc c'était lui qui m'aidait, il était au siège. Du coup, il m'aidait à faire toute la logistique quand il y avait des choses à faire avec la logistique, gérer des cartons, gérer les livraisons et tout ça. Il y en avait une autre qui était plus douée sur les tissus et tout ça. Donc du coup, c'était elle, un peu la référente tissu et qui nous enseignait plein de choses sur les tissus et tout ça. Enfin, et chacun avait sa spécialité en plus d'être vendeur. Mmh. Et du coup, ça leur permettait d'aimer. Enfin, je sais que mon assistante, elle détestait être vendeuse, mais du coup, en plus qu'elle était mon assistante, en plus, bah, du coup, ça lui permettait d'adorer son poste et d'être encore plus performante, du coup, puisque quand on même qu'on travaille, bah, du coup, on est encore plus performant. Quoi.
Ouais, c'est hyper intéressant. Mmh. Génial. Alors, si on revient sur le sujet initial, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, finalement, comment ça se passe, le cycle féminin, quelles en sont les phases? On connaît basiquement la période menstruelle, ouais, quand on est menstruelle, mais pas forcément les autres phases, et quel est leur impact sur notre vie de tous les jours?
Du coup, en fait, il y a quatre grandes phases. Enfin, il y a deux phases, la phase folliculaire et lutéale, mais quand on parle de ça, il y a quatre phases d'énergie. Donc, il y a la phase menstruelle, donc des règles, qui est la plus connue, et la plupart des gens ne voient que ça, et c'est juste la phase visible de l'iceberg. Mais ces quatre phases, en fait, le cycle menstruel, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment toutes coopèrent ensemble, et toutes sont complémentaires entre elles. Et donc, du coup, la phase menstruelle, c'est une phase de repos, de réflexion, d'introspection, de retour à soi. On est beaucoup plus connecté à ses émotions. Et c'est la période, par exemple, si on veut faire ça au point de vue pro, c'est la période où on va visualiser nos objectifs pour le mois qui arrive, le prochain mois menstruel qui arrive. Clarifier aussi, parce que c'est un moment où on a envie d'alléger dans notre vie, parce que du coup, notre énergie est au minimum. Et du coup, notre corps, il va dire, je me concentre que sur ce minimum. Et donc, du coup, on va avoir naturellement envie d'alléger, soit de faire un peu de rangement ou du vide dans notre vie, dans nos amis, dans nos relations, ou par exemple dans nos to-do list, et du coup, faire du tri, parce qu'on a moins d'attache pour ces choses-là, du coup, puisque on a envie de vider, quoi. Donc c'est vraiment visualiser, réfléchir, c'est vraiment aussi un temps de réflexion, tout ça sur les projets. Donc ça, c'est les règles. Après, la phase de préovulation, c'est du coup, les règles, ça peut prendre une semaine, du premier jour des règles jusqu'à 5 à 7 jours, ça dépend suivant la longueur du cycle de la femme. La préovulation, donc c'est à peu près du 6e, 7e jour jusqu'au 13e jour à peu près. Et la préovulation, c'est le moment où là on a beaucoup plus d'énergie, du coup là les hormones commencent à se réveiller, parce que dans la phase d'avant c'était avec la chute hormonale, du coup ils étaient au calme, donc c'est pour ça qu'on est aussi dans le repos, réflexion. Et là, quand on arrive dans la préovulation, c'est vraiment une phase d'accélération. On a énormément de capacités mentales et extrêmement concentré pour vraiment comprendre plein de choses. C'est le moment, par exemple, qu'on peut apprendre des nouvelles choses, des nouveaux cours, des nouvelles formations, se remettre au sport intense. Et du coup, c'est vraiment les hormones de l'estrogène et notamment l'estradiol qui va nous booster sur tout ça, qui booste la mémoire, qui booste les capacités du cerveau. Donc là, c'est passer à l'action, vraiment passer à l'action avec tout le plan qu'on avait fait, qu'on a planifié. De toute façon, on le voit dans les gestions du temps et productivité, on dit il faut planifier son mois, il faut planifier cette semaine, du coup, on en profite pendant les règles. Et là, c'est le moment de passer à l'action, de poser les pierres à l'édifice. Et c'est un moment où on est au service de notre carrière. En fait, on est plus dans notre ego. Et donc là, c'est vraiment au service de nos ambitions et d'être, faire des espaces de coworking, enfin de soirées réseau, networking. Ouais. Networking, c'est vraiment le moment où on va être dans l'extérieur, socialisation et tout ça. Et après, on passe dans la phase du coup de l'ovulation, donc c'est à peu près de 14 jours jusqu'à 20 jours à peu près. Et là, c'est la phase la plus sociable du cycle. Et dans les trucs un peu énergétiques, on dit que c'est la phase de la mère. Et c'est vraiment une phase justement où on est là dans prendre soin de l'autre, maternante. Autant dans la phase avant, c'était chacun pour soi, on fait vraiment pour nous. Là, c'est vraiment, on est vraiment tourné vers l'autre, soutenir les projets de l'autre. Et donc là, c'est vraiment le moment où on peut faire des réunions d'équipe, faire du team building, faire des réunions en tant que médiatrice ou des réunions compliquées, parce que du coup, on est beaucoup moins sensible au niveau émotionnel et on sera beaucoup moins, on partira moins en quart de tour que la phase avant ou la phase après. Et on sera beaucoup plus une meilleure gestion des émotions. On aura une meilleure capacité de persuasion. Et certains disent que c'est une phase de manipulation aussi, où pour vraiment demander, du coup, on serait plus apte à manipuler à ce moment-là.
C'est bon à savoir.
Et par exemple, pour demander une augmentation ou une promotion, tout ça, on aura plus les mots pour persuader les gens du coup de faire ça. Et après, donc, il y a la phase du SPM. Enfin, du coup, quand on passe à l'ovulation, c'est la phase lutéale, enfin, la phase folliculaire se termine et on va commencer la phase lutéale qui va être avec la progestérone. Du coup, c'est cette fois-ci. La progestérone est une hormone sédative qui a tendance, du coup, un peu à ramollir les muscles, et notamment le muscle de l'utérus, pour pas qu'il rejette l'embryon, en fait, si jamais il y a un embryon. Et du coup, ça ramollit pour pas qu'il soit rejeté à l'embryon qui est encore étranger. Et d'ailleurs, il faut faire attention, en fin d'ovulation, c'est le moment où notre système immunitaire baisse, justement, pour ne pas rejeter le corps étranger du potentiel embryon. Du coup, il faut faire un peu tomber malade à ce moment-là. Et donc, voilà. Et donc, on passe après donc, en phase prémenstruelle, parce que le syndrome, c'est juste un symptôme, voilà, mais c'est pas tout le monde qui est... Enfin, normalement, dans un cycle idéal, on n'est pas censé avoir des syndromes prémenstruels ou SPM. Et en phase prémenstruelle, là, c'est une chute d'énergie. Une chute d'énergie physique. Du coup, notre corps est beaucoup plus au ralenti, il se fatigue beaucoup plus, on a moins d'endurance physique. En revanche, nos capacités mentales sont encore... moi, je dis que c'est un peu le hamster qui tombe dans sa roue, parce que c'est encore à fond, même si notre corps ne suffit pas. Et du coup, ça peut aussi créer frustration. Et voilà. Et à la fin, il y a la chute hormonale, justement, quand le corps jaune se désintègre, qui produit la progestérone. Se désintègre et du coup là ça va faire la chute hormonale et qui part déclencher les règles. Et du coup c'est pour ça qu'on a aussi cette tempête hormonale qui fait qu'on est irritable, sensible. Mais dans cette période, c'est le moment où on va être très créative. Vraiment, si on exploitera vraiment à ce moment-là, on a l'impression d'avoir un puits de créativité et qu'on ne sait même pas d'où ça nous sort. Donc c'est vraiment le moment pour travailler sur les nouveaux projets et avoir des idées sur ça. C'est un moment où on a un esprit critique aussi très développé. Donc plutôt que de le faire vers soi, se dire « je ressemble à rien, j'ai grossi, je ressemble à une poubelle » ou faire vers les autres qui vont nous énerver pour tout et n'importe quoi, se concentrer sur les projets justement. Et se dire « ok, il y a ça qui ne va pas et on va être beaucoup plus apte à chercher la petite bête. » Du coup, voir tout ce qui ne va pas pour pouvoir améliorer le projet et faire une espèce d'évaluation audite. Et après, il y a aussi la phase, c'est un moment, je trouve que nos pensées sont beaucoup plus organiques à ce moment-là. J'ai demandé à des amis, moi, j'ai lu un peu quelque part, mais c'était vraiment une observation personnelle. Notre pensée est beaucoup plus organique et du coup, le cerveau va avoir un angle beaucoup plus large. Dans le sens, on va faire des liens qui ne nous auraient pas sauté aux yeux avant. Et du coup, là, on va avoir beaucoup plus de fulgurance, de « Eureka, ça y est, j'ai compris ça ». Ou par exemple, pour travailler sur des dossiers compliqués qui peuvent... dire ok, on a fait des liens là et tout ça. Par exemple, moi, la plupart de mes processus de rédaction de toutes mes recherches étaient à ce moment-là. Enfin, j'ai une bonne phase de lecture et surtout de faire des liens, de pouvoir rédiger et comprendre mieux les choses, quoi. Voilà un peu les atouts de cette facette. Okay. Il n'y a pas que les douleurs, et je le répète tout le temps, mais les douleurs, c'est pas normal. Et du coup, si on a mal, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut aller consulter. Et si le médecin dit que c'est normal, non, changer de médecin, parce que c'est pas normal. Enfin, on en parlait encore hier à règle élémentaire, et toutes ont dit ça, c'est pas normal, et du coup, donc le SPM n'est pas normal non plus. Donc il faut aller consulter si jamais on a ça.
Ok. Information importante, tu as raison de le partager et de le préciser. On avait du coup une question qui concerne du coup le travail effectivement et notamment là tu nous expliques les phases et finalement ce qu'on peut en tirer, donc plutôt à notre avantage. Après concrètement, par exemple moi je suis salariée aujourd'hui, concrètement qu'est-ce que je peux mettre en place pour adapter mon travail à mon cycle en fait, parce que quand on est salarié on a des contraintes, on a des rendez-vous, on a des personnes extérieures qui viennent un peu remplir notre agenda aussi. C'est pas forcément évident. Est-ce que tu as des tips ou des choses à partager à ce sujet-là pour les personnes qui seraient salariées par exemple?
Déjà, c'est quand on apprend à vraiment comprendre son cycle, en fait on sait à peu près quelles sont nos énergies hautes et basses, et on sait que du coup c'est normal d'avoir une énergie qui baisse à l'approche des règles, et que en fait on culpabilise moins en se disant c'est normal, là mon énergie baisse, c'est normal, c'est ok. Et c'est moins de culpabilité, moins de stress autour de ça. Et du coup, ça va aussi contrebalancer, se dire c'est ok, du coup, on se fout plus la paix et du coup, c'est plus safe. Après, évidemment, du coup, on a toujours des contraintes extérieures, mais après, on peut voir comment s'organiser pour essayer d'anticiper les choses et se dire à ce moment-là, là, je vais avoir mes règles à ce moment-là. J'essaye de mettre moins de projets et de moins de me charger à ce moment-là. Alors, on ne peut pas toujours, évidemment, surtout dans mon sympa, j'étais tout le temps en tant que responsable, on a toujours plein de choses à gérer et tout ça, mais vraiment que j'essayais de ne pas voyager à ce moment-là, quand j'allais à l'approche de mon syndrome prémenstruel ou de mes règles, j'essayais de rester à la boutique lyonnaise et pas partir à Nantes ou voilà, pour justement rester là, plus focus et moins être fatigué. Donc, on peut éviter, c'est éviter par exemple des grosses réunions, rendez-vous. Mais si on n'a pas le choix et qu'on a notre réunion quand même, il y a plein d'autres alternatives. Déjà, se dire que c'est ok qu'on ne soit pas hyper optimal. Se dire, du coup, je vais à cette réunion et je donne tout dans ma réunion et ça sera toute mon énergie qui sera canalisée là-dessus. Mais du coup, on se fout la paix pour le reste de la journée ou on évite par exemple les after work pendant cette période-là. On fait moins d'heures sup ou enfin en tout cas on travaille j'allais dire le strict minimum mais en tout cas nos horaires établis et on essaie de d'alléger notre emploi du temps social et professionnel à ce moment-là pour mieux se reposer parce que du coup le repos compte double à cette période-là et après en fait c'est juste on apprend à savoir à s'organiser, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est au fil des mois on voit quelles sont nos phases optimales et comment on peut organiser ça, mais après évidemment les réunions peuvent tomber à n'importe quel moment et tout ça, mais déjà de savoir où on en est, ça peut nous permettre de faire la paix déjà et de coopérer avec notre corps, même si on peut pas tout organiser, enfin mon emploi du temps n'est pas tout calé sur ça, c'était juste les grandes lignes directrices et voilà, donc c'est juste déjà se faire une idée et de savoir comment on est et où on va et c'est normal d'être plus ci, plus ça, comme ça.
Bon, moi, je note mes règles dans une appli, mais je me dis que je vais peut-être les noter aussi dans mon agenda pro avec peut-être un code secret ou un code couleur, pas dédié pour pas non plus que la terre entière soit au courant, mais c'est peut-être aussi une astuce de l'afficher ou de l'avoir en tête pour le pro parce que moi, j'ai tendance à oublier. Enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant de petit à petit essayer de mettre en place des choses et de suivre un peu son cycle d'abord, en premier lieu, pour après organiser le reste autour. On se demandait aussi, on se doute de ta réponse, mais ça peut être intéressant d'avoir du soutien en interne quand on est salarié. Du coup, le soutien peut venir évidemment de collègues, mais aussi de l'entreprise elle-même. Tu nous as expliqué que tu accompagnais les entreprises qui souhaitaient aller dans ce sens-là. Selon toi, c'est quoi l'intérêt en fait pour les entreprises de mettre en place des choses en faveur d'une organisation qui permet aux femmes de s'adapter à leur cycle et aussi comment c'est reçu, comment c'est perçu finalement par les entreprises que tu rencontres quand, enfin, le fait d'aborder ce sujet qui est particulier, qui est encore beaucoup tabou finalement. Voilà, comment tu vois les choses à ce niveau-là, toi?
Je pense que du coup, il faut changer de regard du coup, sur les règles et pas plus en faire un tabou, mais dans le sens où en fait, la plupart des entreprises peuvent subir du coup, l'impact des règles et du cycle et que les règles, c'est 9 jours de productivité en moins chaque année par femme, en fait, donc c'est quand même pas mal. Et c'est justement parce que du coup, il y a ces baisses d'énergie et tout ça. Et justement, si on apprend à anticiper comment s'organiser en fonction de son cycle, c'est pas travailler moins, mais plus intelligemment. Et du coup, avoir, même si dans certaines périodes, elles seront moins performantes que les hommes, elles auront beaucoup plus de performances ailleurs et elles peuvent aussi faire plein de choses, la réflexion, la créativité, l'intuition et travailler sur des dossiers. Donc, c'est pas un mal de savoir suivre avec son cycle. Et de toute façon, dans les nouvelles générations, je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'émancipent et qui coopèrent avec leur cycle et qui sont intéressées par tout ça. Et je pense que ça peut être un vrai enjeu aussi dans le bien-être au travail et bien-être menstruel au travail sur ça et d'être des vraies qualités de QVCT, qualité de vie et conditions de travail qui peut être un vrai atout. Surtout quand on voit avec toutes ces... cette grande démission et ces problèmes d'embauche, en fait, s'il y a une entreprise qui est plus attractive, justement, par exemple, au congé menstruel et tout ça, ça peut être un vrai plus, quoi. Et en plus, la mise en place du congé menstruel, non seulement ça permet d'anticiper les potentielles absences, et ça permet de moins culpabiliser la salariée qui sera absente à cause de ses douleurs de règles, parce qu'elle ne choisit pas d'être absente.
Est-ce que tu peux juste nous expliquer en deux mots le congé menstruel pour ceux qui ne connaissent pas?
Le congé menstruel, c'est permettre à toute personne menstruée de pouvoir poser un jour sans que ça enlève sur son salaire, en fait. Enfin, poser un jour de repos ou de télétravail ou un jour suspendu, comme j'appelle. C'est-à-dire que du coup, ça sera un jour où elle ne travaille pas ce jour-là, mais qu'elle peut rattraper ses 7 heures réparties sur le reste du mois. Enfin, il y a plein de solutions, en fait, pour le congé menstruel. Et surtout, ça permet qu'elle ne subisse pas son cycle, soit qu'elle... soit au travail, mais qu'elle est tellement mal qu'elle ne puisse pas être performante, soit, enfin performante, je déteste ce mot, mais moins, moins engagé dans son travail, puisque quand on est malade, on sait qu'on n'est pas, dans son assiette, quoi. Mmh. Et à la fois, ça ne lui enlève pas son salaire si elle ne peut pas venir travailler, parce que déjà, on sait que les femmes sont moins bien payées. Et en plus, si elles doivent perdre du salaire juste parce que du coup, elles sont malades, ou prendre un jour de congé et que finalement, elles ne profitent pas de leur jour de congé à cause de ça, hein, c'est un réel enjeu. Il y a de plus en plus de femmes qui souffrent de douleurs menstruelles à cause de tout ce qui est pollution, tout ce qui est... tous les facteurs environnementaux, la pollution, le stress et tout ça, et du coup je pense que c'est un réel enjeu pour les nouvelles générations, quoi, du coup, de faire ça.
Et du coup, et au niveau entreprise, quels sont les retours que tu as eu, toi?
Pourtant, je suis au tout début du sujet, donc j'ai plus parlé avec les salariés, enfin, je vois plus les salariés qui sont ultra favorables à ça, enfin il y a deux écoles, il y en a qui sont très favorables à ça et qui disent qu'il faut vraiment prendre en compte ça et c'est un réel enjeu. Il y a aussi beaucoup d'indépendantes qui disent que bah, je suis contente d'être indépendante maintenant, parce que comme ça je peux m'organiser en fonction de mon cycle et comme ça je peux me foutre la paix la semaine d'Amérique. Donc c'est quand même fou de dire qu'elles attendent d'être indépendantes pour avoir ça, et pourquoi on ne fait pas ça en entreprise justement, puisqu'on sait ça, quoi. Et il y a d'autres écoles qui vont dire que ça va être discriminant pour les femmes de, justement d'avoir cette notion de règles qui rentrent encore en plus en jeu dans toutes les discriminations des femmes. Et j'entends totalement et je suis d'accord. Juste que du coup, il y a des femmes qui souffrent et que du coup, on ne va pas les laisser encore dans leur coin et rien proposer pour... Enfin, il y a un problème, il faut trouver des solutions. Et donc, je ne dis pas que c'est la solution idéale, mais pour l'instant, ça serait la solution qui peut marcher. Et justement, si on réfléchit comment on peut mettre ça en place, que ça soit favorable pour l'entreprise et pour la salariée et que ça soit que tout le monde s'y retrouve, en fait. Et donc, il y a des problèmes, en fait. Donc, il y a un moment, il faut bien le régler. C'est pas dire... Bah, on voit pas, donc on laisse sous le tapis et on laisse les femmes bah, perdre des jours de travail comme ça, on laisse bah, la désorganisation parce qu'elles peuvent pas venir là, elles peuvent pas... Enfin, là j'ai un client justement qui est justement un magasin et il dit bah, en fait nous on peut pas se permettre que la salariée soit absente comme ça, parce que du coup qui va ouvrir le magasin, comment on va faire et tout ça, donc du coup là on travaille justement pour comment organiser ça pour que ça impacte pas, elles peuvent pas faire en télétravail puisque c'est des caissières, c'est pas... Enfin, et du coup, c'est vraiment un enjeu de comprendre comment anticiper ça et comment organiser ton travail, quoi.
Ok. Alors du coup, je rebondis sur la partie indépendante, parce que tu l'as évoqué. C'était justement notre prochaine question. Toi qui es aujourd'hui indépendante, du coup, dans ton activité, et pour les autres, est-ce que selon toi, c'est plus simple d'écouter son cycle, ses phases quand on est indépendant? Tu l'as un peu dit, du coup, il y a pas mal de femmes, d'ailleurs c'est surprenant, qui c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elles sont devenues indépendantes. Mais dans la réalité, concrètement, est-ce que c'est vraiment possible? Parce qu'on s'imagine que c'est plus facile, mais est-ce que c'est vraiment possible? Et toi, comment tu l'expérimentes, toi, pour ton exemple personnel?
C'est beaucoup plus simple, oui, parce que du coup, on peut s'organiser en fonction, et il y a beaucoup d'indépendantes qui disent qu'elles prennent, en tout cas, pas de rendez-vous client ou de formation ou de choses avec du public pendant les semaines ou juste avant le SPM, enfin, pendant une semaine par mois à peu près pour rester en paix et qu'elle reste en pyjama chez elle tranquille. Mais après, je le dis toujours, en fait, même si le cycle, ça nous influence beaucoup, on peut tout faire à tout moment, en fait. Enfin, c'est pas du tout Enfin, en fait, on peut tout faire même avec ou sans cycle et on a toujours coopéré sur notre cycle jusqu'à maintenant. En fait, c'est juste un peu le champignon bonus, de champignon magique de Super Mario. En fait, on sera encore plus performante si on coopère avec notre cycle. Voilà. Mais évidemment, c'est pas toujours possible pour quand on est indépendante de tout faire. Enfin, par exemple, hier j'avais la conférence, c'est pas moi qui choisis la date et donc j'aurais dû y aller. Enfin, après, c'est bon, j'étais dans une bonne période, mais du coup, quand c'est des choses extérieures comme ça, on va pas dire non, je peux pas venir et tout ça, donc voilà. Mais on essaye plus de savoir comment s'organiser justement. On anticipe mieux les choses et on sait mieux les choses. Mais après, je suis pas non plus parfaite, et en plus, je suis pas du tout pour un emploi du temps strict, rigide et tout ça. Enfin, moi-même, je suis pas non plus la pro de l'organisation ou de l'organisation. Enfin, j'accompagne les femmes à s'organiser et tout ça, mais je ne suis pas dans le truc très, comme j'ai vu dans certains livres, très structuré, très rigide ou très... on a déjà assez de pression, de charge mentale comme ça, les femmes, c'est pas... Voilà, c'est juste donner les outils et le mode d'emploi de comment fonctionne notre cycle, et des outils et des clés pour savoir mieux s'organiser, mais c'est pas dire bah, vous faites ça à la lettre et que voilà, quoi.
Oui, l'idée que c'est pas non plus que ce soit la dictature d'organisation et qu'on soit soumise différemment à notre cycle non plus, quoi.
C'est ça.
Moi, j'avais envie de te poser une question justement un peu en lien avec ça, sur l'aspect organiser, enfin s'organiser en phase avec son cycle pour optimiser. On a parlé de performance. Ouais. Bon, voilà, on n'est pas forcément à l'aise avec le terme non plus, mais voilà, ce côté un peu optimiser. Est-ce que le risque, c'est pas aussi de tomber dans le piège de vouloir tout optimiser tout le temps, chose qu'on fait tout le temps partout, c'est pénible, il faut organiser même ses congés, ses moments de temps libre, voilà, c'est un peu angoissant des fois. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'on cherche en tant que femme à vouloir être absolument performante, productive? On sait que tu as lu le livre En finir avec la productivité de Lucie Vito qu'on a interrogé il n'y a pas longtemps sur le podcast. Donc voilà, ce sujet de la productivité, être tout le temps performante, optimisée, comment on fait attention à ne pas tomber dans le piège de se dire, bah voilà, je suis mon cycle pour être en phase, mieux le vivre, etc. Mais du coup, il faut que je sois à fond, au taquet, quand il y a des périodes dédiées. Enfin, tu vois, comment on fait pour ne pas tomber là-dedans?
Je pense que c'est justement avoir beaucoup de recul sur ça. Et du coup, oui, c'est être contre la productivité et tout ça. Et c'est dire, bah ok, du coup, j'ai des clés pour savoir être plus efficace à ce moment-là. Mais ce n'est pas non plus avoir un emploi du temps très rigide, comme on disait. C'est vraiment... se dire, bah, ok, j'ai les clés, je sais que là, du coup, je serai plus performante, mais c'est pas non plus se foutre la pression. Et en fait, je pense que c'est vraiment... Enfin, c'est ce que j'expliquais dans la formation que j'avais commencé à créer, c'est de garder un esprit... Comment dire, du recul sur tout ça, et se dire, ok, je vais être plus efficace que la normale, parce que du coup, je vais coopérer avec mon cycle, et j'ai plein d'outils de gestion, de productivité et d'organisation. Donc ça va être, je serai plus efficace, mais plutôt que de faire trois journées en une comme on nous prône dans ça, bah c'est se dire, bah ok, bah ce temps économisé, ce temps gagné parce que j'étais plus productive certains jours, et ça, bah c'est se dire, bah ok, bah du coup j'en profite pour profiter de la vie en fait, ou profiter de mes proches, ou me lâcher la grappe et travailler moins pendant la semaine des règles et tout ça. Et en fait, c'est vraiment se dire, ok, j'ai gagné du temps pour faire ces trois journées en une, mais je décide de garder quand même qu'une seule journée en une et de me laisser plus de temps et d'être en plus dans le slow entrepreneuriat et slow entreprise et faire moins de choses, mais en être plus efficace. Donc en fait, avoir plus de temps libre pour faire tout ça, quoi.
Ouais, donc le but, c'est pas de chercher à être productive et performante tout le temps, mais simplement d'utiliser les périodes dans lesquelles où c'est propice pour y aller. Et le reste du temps, on se fiche la paix et c'est pas ça. Pour en faire plus par ailleurs, quoi.
Non. Okay. C'est juste qu'en fait, du coup, le cycle, ça va nous mettre plus de capacités. Enfin, par exemple, moi, je sais que quand je suis en période fin de la phase prémenstruelle et début de règle, je peux lire énormément. Enfin, je peux lire 3 livres en 3 jours, quoi. Enfin, je suis vraiment. Voilà. Alors que le reste du mois, je ne lis pas. Enfin, si je lis 2 pages, ça me saoule en fait de rester assise. Et du coup, je sais que du coup, quand je vais faire mes phases de recherche, ça va être du coup justement pendant ce moment-là où à la fois je peux rajouter beaucoup d'infos et beaucoup de livres et faire aussi beaucoup de liens du coup avec mes fulgurances. Du coup, je sais que du coup, j'ai ces 3 jours-là. Mais après, je ne suis pas tout le temps disponible et je vais avoir plein de rendez-vous ces jours-là, donc je ne peux pas utiliser ça. Et je ferai en sorte. Mais du coup, c'est savoir que. Plus on apprend à fonctionner avec notre cycle, plus on développe des capacités et que du coup on a notre plein potentiel dans ces capacités et que du coup se dire, bah j'ai fait 3 jours où j'ai fait lu 3 livres, voilà, et j'ai fait ça, mais du coup finalement après ça m'a pris 3 jours et après je suis tranquille pour le reste du mois sur cette facette. Et voilà, enfin, c'est apprendre à vraiment coopérer avec son cycle et voir à tel point on peut être performante quand on utilise ça et du coup avoir plus de temps, le reste du temps pour faire d'autres choses ou moins se prendre la tête sur tout ça, quoi.
Pas forcément travailler plus, quoi.
Pas du tout. Je suis pas du tout.
Mais profiter de la vie.
Bah, je suis pas du tout comme ça. Enfin, moi, c'est. Tout le monde dit que quand on lit les livres un peu ça, en tout cas dans le milieu un peu alternatif, féministe, tout ça, il y en a beaucoup qui disent que c'est politique de suivre et de coopérer avec son cycle. Ouais. Et c'est purement anticapitaliste, en fait. C'est accepter, du coup, de ralentir et que c'est ok et que justement, c'est. Enfin, la société, enfin, le monde est naturel et le monde est cyclique. Et en fait, nous, chaque mois, les femmes, on vit cette décroissance, en fait. Et c'est normal. Et la nature, elle est décroissante, comme l'hiver, et c'est fait pour le repos. Et du coup, nous, l'hiver, c'est nos règles. La nuit, c'est fait pour le repos. Enfin, voilà. Et en fait, c'est mon idéal, ça serait que du coup, si toutes les femmes coopèrent avec leur cycle, ça invite les hommes aussi à ralentir et à accepter que, bah, du coup, on peut être tout autant performant en travaillant moins, juste en apprenant à mieux s'organiser et en gérant mieux son énergie, on peut être tout autant performant. Le monde ne va pas s'effondrer et voilà, du coup, donner une nouvelle impulsion aussi aux entreprises et à la société d'être accepter ces décroissances, même si c'est un monde idéal et utopiste. Mais c'est vrai que moi, je suis plus dans cette facette-là, quoi.
Espérons. Et alors du coup, justement, pour les personnes qui n'auraient pas la chance d'être dans des entreprises que tu accompagnes, est-ce qu'il y a des clés, je ne sais pas si toi, tu as déjà des ressources, des informations, des ateliers, des formations à conseiller, et est-ce que toi, tu accompagnes aussi des particuliers?
Je fais des formations collectives, du coup, des ateliers collectifs, du coup, comme j'ai pu faire à l'Ecofina Festival. Mais, et du coup, j'ai prévu d'en faire de plus en plus aussi bien donc, en présentiel et en distanciel. Et j'ai aussi avec des réseaux, je ne sais plus le nom, j'ai fait un réseau en décembre, un réseau de femmes. Et du coup, donc, c'est accessible aussi dans ces réseaux de femmes, des fois, de faire des points comme ça, et que ce soit accessible pour elles, en fait, et du coup, de diffuser un maximum de choses. Et c'est pour ça aussi que je travaille dans les entreprises, que du coup, travailler en entreprise, ça paye mieux que de travailler juste avec le particulier, mais justement pour me laisser plus de temps après pour développer des ressources gratuites ou moins chères pour les personnes du coup en particulier, ou faire des projets associatifs comme l'Ecofémina Festival, ou m'investir dans d'autres projets qui me tiennent à cœur et que du coup j'ai plus de temps pour travailler moins en fait, et du coup mais plus canaliser l'énergie dans certains projets quoi en fait.
Ok. Super. Et du coup, est-ce que tu as des livres à nous conseiller, à conseiller aux auditeurs, ou des podcasts, enfin des choses qui, voilà, qui pourraient informer sur le sujet?
La base, c'est un peu Kiff ton cycle de Gaël Baldassare. Enfin, je l'ai énormément lu pour travailler dessus pour développer mon programme. Après, il y aura tous les livres sur les femmes optimales de Miranda Gray, qui est aussi pour... Là, c'est vraiment détaillé chaque phase et chaque... Enfin, elle s'est poussée jusqu'au bout et moi, je ne suis pas forcément partisane de ça. Et après, il y a tous les livres un peu sur la naturopathie et la symptothermie et tout ça, qui donnent plein de clés, même si on ne va pas forcément faire de la symptothermie. Enfin, je suis libre aux femmes de faire ça, mais ça peut donner plein de clés justement sur le fonctionnement du cycle menstruel et tout ça. Quoi.
Merci.
Merci Héloïse, c'était hyper intéressant.
Alors moi, ce que je retiens de notre échange avec Héloïse, c'est d'abord toutes les informations qu'elle nous a données sur les phases de notre cycle et les énergies associées qui sont variables du coup en fonction de la période du cycle dans laquelle on se trouve. Et je trouve ça important d'être au fait de ces informations-là, parce que ça aide effectivement à mieux comprendre le cycle et à pouvoir effectivement coopérer avec lui plutôt que de le subir complètement. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle nous dise quand même qu'on peut on peut tout faire tout le temps, mais que c'est quand même plus agréable et plus confortable de coopérer avec son cycle pour se sentir mieux tout simplement, et puis gagner du coup en efficacité aussi dans les activités qu'on mène au quotidien. Et enfin, ce qui m'a beaucoup interpellée sur la fin de l'échange, c'est quand elle évoque le fait que le travail, le fait de l'adapter en tout cas à son cycle menstruel, c'est aussi finalement une action politique et anticapitaliste, parce que quelque part ça nous invite à nous reconnecter à nous, à notre nature, à la nature dans son ensemble. Ça invite à la décroissance, à accepter les phases cycliques finalement de la vie, et pas toujours être dans une vie très linéaire et qui pousse à toujours plus, produire plus, consommer plus, etc. Et j'ai trouvé que c'était un parallèle assez intéressant qui m'a en tout cas interpellée sur cette démarche anticapitaliste et politique sur le fait d'adapter son travail à son cycle menstruel. Donc une raison supplémentaire pour s'y intéresser, en tout cas, je crois.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout que je trouve qu'effectivement un des axes, enfin une des raisons pour lesquelles c'est éminemment politique, c'est le fait que c'est un sujet tabou. Et je pense qu'il faut vraiment s'en emparer. C'est un sujet central dont il faut parler. En 2022, je trouve que c'est vraiment choquant en fait que ce phénomène qui est vraiment naturel soit autant ignoré, et ce dans toutes les sphères. Elle l'a un petit peu dit, mais je pense que c'est vraiment une responsabilité de chacune de s'informer sur ses cycles, sur sa manière d'interagir et de coopérer avec son corps, pour vraiment reprendre le pouvoir sur son corps, sur ses capacités, et de le brandir, d'en être fière, je pense. Et puis moi, je voulais ajouter une dernière chose, c'est on en a un petit peu parlé en off, après l'enregistrement avec Héloïse,
c'est le fait de l'accroissement du nombre de femmes qui souffrent en fait de douleurs, du règle, de syndrome prémenstruel, d'endométriose ou même d'infertilité. Et en fait, cet accroissement est clairement dû et clairement à mettre en parallèle avec la dégradation de l'environnement, avec les perturbateurs endocriniens, notamment, pas que, mais toutes les pollutions dont on mange, ce qu'on respire, etc. Ça a un réel impact en fait sur nos cycles et sur nos douleurs et donc sur notre incapacité ou en tout cas notre difficulté à nous concentrer, à travailler, ou même à interagir, à agir au quotidien. Et ça, je trouve que d'en avoir conscience, c'est déjà une arme, c'est déjà une première étape, une première marche pour pouvoir agir concrètement dessus.
Merci d'avoir écouté Néo Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail.
Si cet épisode t'a plu, le meilleur moyen de le soutenir et de le partager est de suivre Néo Travail sur LinkedIn.
Tu peux aussi nous laisser un avis et noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles.
À bientôt !